Entre l'œuf et la poule, lequel est premier? Le discours de Jésus que nous venons de lire semble nous évoquer cette question. En effet, il dit d'un côté, seul le fait de porter du fruit permet des sarments de rester attachés à la vigne. Et il insiste, d'un autre côté, que seuls les sarments qui demeurent sur la vigne peuvent porter du fruit. Comme s'il voulait nous dire que si je ne porte pas de fruit, je serai enlevé du Christ. Mais si je ne reste pas dans le Christ, je ne pourrai même pas espérer porter du fruit. La question, de quoi dois-je m'occuper? De quoi dois-je m'occuper d'abord? J'essaie de porter un maximum de fruits dans ma vie afin de m'assurer une place dans la belle vigne qui s'appelle le Christ, ou je m'accroche avant tout sur le label chrétien en espérant que ma vie chrétienne portera un jour ou l'autre ses fruits. Sans doute, certains d'entre vous se rappellent déjà la question qui a causé tant de polémiques au temps de la réforme au XVIe siècle et qui continue à provoquer tant de malentendus, c'est-à-dire la question du rapport entre la foi et les œuvres, qui nous demande de tenir ces deux affirmations ensemble. D'un côté, seule la foi sauve et produit des bonnes œuvres. D'un autre côté, la foi sans œuvre est une foi morte. Dois-je croire et les autres choses arriveront-elles d'elles-mêmes? Dois-je veiller sur mes œuvres afin que ma foi ne devienne morte malgré moi? Ces questions, comme les questions que j'ai formulées il y a un instant au sujet de rester sur la vigne et de porter du fruit, sont de fausses questions. Elles sont fausses pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'elles présupposent la question « Que dois-je faire ?» Or, c'est justement cette question « Que dois-je faire ?» que le discours de Jésus, de laquelle que le discours de Jésus nous libère. Avez-vous remarqué le seul impératif présent dans notre texte biblique, impératif d'ailleurs quelque peu surprenant? Je vous relis le début du texte dans l'Évangile selon Jean. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Le sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Si on a un peu de notion de logique et de rhétorique, la conclusion attendue de ce développement est facilement imaginable. Porter donc du fruit. À la place, Jésus dit, demeurez en moi comme je demeure en vous. Et cette injonction de demeurer en lui sera resté le seul impératif dans notre texte. Le discours dont notre texte constitue le début est communément appelé le second discours d'adieu de Jésus dans l'évangile selon saint Jean. Le lavement des pieds des disciples par Jésus, la scène qui remplace le dernier repas dans les trois autres évangiles, vient de se passer. Après ce discours et la prière d'adieu, Jésus sortira, se fera arrêter par la porte et des gardes guidés par Judas, et se fera conduit à la mort sur la croix. C'est en quelque sorte un testament que Jésus prononce devant les siens. Or, pour nous, les siens qui vivent le temps d'après Pâques, ce discours résonne dans un ton quelque peu différent. Nous savons que la croix, la mise à la mort de Jésus, n'ont pas abouti à la rupture de la relation entre le Christ et les siens. Un dimanche matin, le tombeau qui aurait dû le séparer des vivants est découvert vide. La mort qui aurait dû être la fin de toute relation, est dévoilée un dimanche matin comme quelque chose de vaincu définitivement. Le ressuscité apparaît devant Marie de Magdala, devant les disciples, devant Thomas qui doutait, et même apparu, dira un jour l'apôtre Paul converti sur le chemin de Damas, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Décidément, la croix n'a pas abouti à la rupture de la relation avec le Christ, mais à son achèvement. Cette injonction, demeurez en moi comme je demeure en vous, nous apprend avant tout qu'existe une nouvelle relation post-pascale avec le Christ. Il demeure en nous. Il demeure avec nous malgré tout. Et cette présence en rend possible l'autre versant, que nous puissions demeurer en lui. Il est venu vers nous, et c'est pourquoi nous pouvons le rencontrer. Il a parlé avec nous, et c'est pourquoi nous pouvons le connaître. Il a promis de rester avec nous par son esprit, et c'est pourquoi nous pouvons être avec lui. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Cet ordre, ce commandement est avant tout l'invitation à la reconnaissance de l'amour qui a commencé, non pas de nous, mais de la part du Christ. Quel est alors le contenu de cette relation que même la mort à la croix ou l'absence physique de Jésus auprès de nous ne peut détruire? Qu'est-ce que demeurer en Christ? Notre texte nous apprend que la présence réciproque entre le Christ et nous résulte du don de la parole, c'est-à-dire l'ensemble de l'enseignement de Jésus dans sa vie, sa mort et sa résurrection. La relation de foi est moins de nature mystique qu'elle concerne un langage constitué par Dieu et destiné à être compris. La foi écoute et elle voit. Dieu a parlé en Jésus-Christ et cette révélation advenue dans le passé détermine le présent, notre temps. Demeurer dans le Christ signifie que ses paroles demeurent en nous. Nous demeurons en lui en restant fidèles à ses paroles, à ce que Dieu a révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Cet ordre, ce commandement, nous demande de prêter nos oreilles à ce que Dieu a dit en Jésus-Christ, de comprendre ce que Dieu a fait en lui. Voyez-vous, le seul impératif, le seul ordre dans notre texte nous indique que ce n'est pas l'homme qui doit faire quelque chose. Il nous demande justement de nous libérer de cette volonté de faire par nous-mêmes. Le commandement de Dieu nous libère de notre servitude d'auto-justification. L'image de la vigne et des sarments dénonce l'illusion de l'homme soi-disant autonome. Lorsque nous pensons pouvoir porter du fruit en comptant nos propres forces, nous devenons justement sans Dieu. Cette remarque nous amène au deuxième point, un peu plus bref, de notre méditation. Il s'agit de la question de porter du fruit. Nous ne nous rappellerons jamais trop que si nous est possible de porter du fruit, c'est parce que la parole du Christ nous est donnée. Nous pouvons porter du fruit dans la mesure où nous demeurons fidèles à la relation que le Christ a établie avec nous. Nous ne sommes pas devant un but à atteindre. Dieu nous appelle à rester attachés à une relation déjà existante, une relation que Dieu lui-même a créée. Vous et moi, l'homme, l'humanité en entier, existe car Dieu a voulu être avec l'homme. Dieu nous invite à vivre pleinement cette relation dans le présent de la foi. Ce temps présent de la foi se déroule pour la vie humaine dans la durée. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, dit Jésus dans notre texte, celui-là portera du fruit en abondance. La communion que le Christ nous accorde de vivre ici et maintenant est placée sous le signe d'une promesse. En lui, nous porterons du fruit en abondance. Ce qui va suivre ce qui va se produire est déjà donné dans la présence réciproque entre le Christ et les siens, vécu ici et maintenant. Notre avenir porte un sens. Il a un sens car il est le temps de la réalisation de ce que Dieu a accompli déjà une fois pour toutes. Nous porterons du fruit. J'ai presque envie de paraphraser en exagérant un petit peu cette idée, en disant que anticiper dans notre existence qu'est le sarment sur le Christ, notre avenir sera le fruit de Dieu. Nous serons ses fruits. L'expression concrète de cette promesse de Dieu dans notre texte est l'exaucement de la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Il faut absolument éviter tout malentendu qui rabaisserait la prière à un langage bon marché. En comprenant ce motif de l'exaucement de la prière comme la récompense méritée pour je ne sais quelle attitude de notre part. Ce qui précède, c'est-à-dire la présence réciproque entre le Christ et les siens, comme la condition déterminant cette promesse, et ce qui suit ce verset, c'est-à-dire l'être disciple pour la gloire de Dieu, comme la finalité de cette promesse. Ce contexte interdit tout fantasme au sujet de l'exaucement de la prière. La promesse de l'exaucement de la prière est beaucoup plus concrète et beaucoup plus sérieuse. La prière est un des espaces privilégiés où s'exprime la relation entre le Christ et nous. Elle est un des lieux par excellence où nous pouvons vivre pleinement cette relation de la présence réciproque. Dans nos prières, dans le langage humain par excellence, Dieu partage la parole avec nous. Demeurant dans le Christ, dans ses paroles, nous vivons dans la promesse de porter du fruit. Cette promesse se traduit dans notre existence chrétienne par l'être disciple, ou plus exactement, si je me permets de traduire un peu plus littéralement le dernier verset de notre texte, cela se traduit par le constant devenir disciple. Être disciple ou devenir disciple signifie apprendre à répondre à la parole vraie par une parole vraie. La prière exaucée comme fruit porté par le fait de demeurer dans le Christ aura, par exemple, ce genre de langage. Seigneur, que ta volonté s'exprime dans notre prière. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Que tu sois rendu présent et honoré dans le monde vacha no tradir. Dans 4 jours, jeudi prochain, nous fêtons l'Ascension. Le jour où nous reconnaissons l'absence physique du Christ ressuscité. Saurions-nous demeurer en lui malgré l'adieu du ressuscité? Saurions-nous dire « Je crois » comme le disciple bien-aimé dans le tombeau vide au matin de Pâques? Oui, mais avec l'aide de Dieu. Amen.